êtes sur la zone payante. Mon nom est Jean Nicolas Gagné, le podcast de Cube Radio, et je suis en compagnie de Stéphane Cadorette. Et Stéphane, c'est le moment de regarder un peu les forces en présence dans la NFL pour 2022. Et si tu veux bien, on va passer par division et on va commencer par la AFC East, une division où plusieurs voient les futurs champions du Super Bowl cette année.
Ouais, les Bills qui sont favoris là, par les preneurs au livre, puis c'est loin d'être un mauvais choix, honnêtement. Là, ça va être dur à détrôner les Bills dans cette division-là, puis dans la conférence, puis overall. Tu sais, on s'entend, c'est un alignement qui a pas beaucoup de lacunes. Ils ont pas fait nécessairement là, des gros, gros coups, à part Von Miller. Ça, c'est un gros coup. Il y en a qui vont dire, ouais, il est vieux, Von Miller. Peut-être qu'il est dans la trentaine. Mais quand tu regardes à quel point qu'il a donné un coup de pouce sérieux à la défense des Rams dans leur poussée vers le Super Bowl, là, il était de plus en plus dominant au fil de la saison. Lorsque les séries ont commencé, on a retrouvé le Von Miller là, presque aussi fou qu'il était en 2015 à Denver. Donc, avec les jeunes joueurs de ligne défensive des Bills, je pense que c'était le vétéran parfait à ajouter là, pour dans les pièces du casse-tête. Il y a un petit hic au niveau des Bills. Ils commencent avec un calendrier redoutable. Plusieurs gros matchs. Puis en début de saison, lors de mid-coin, Tre'Davious White qui va être absent. Mais somme toute, moi je pense que c'est vraiment la division des Bills. Je vois pas comment une équipe là-dedans peut les détrôner. Tu vas me dire probablement que les Dolphins se sont beaucoup améliorés. Là. Mais au point de chasser les Bills, je suis pas encore convaincu. Mais tu sais, j'aime ce qu'ils ont fait, par exemple. Je te le dis, Jean-Nic, moi, j'adore le fait qu'il ait été chercher Tyreek Hill. Tu donnes toutes les chances au monde à Tua. Ils ont été chercher Terron Armstead comme bloqueur. Ça, c'était vraiment important de fortifier la ligne à l'attaque, là, parce que c'était un gros problème. T'as beau amener des armes dans le jeu aérien, là, tu pourras jamais évaluer Tua convenablement s'il est pas capable de rester debout. T'sais? Donc, je pense qu'ils ont fait des gestes en ce sens-là. Le garde Connor Williams aussi. J'ai hâte de voir avec un nouvel entraîneur-chef, Mike McDaniel. T'sais, à chaque fois qu'on parlait de noms potentiels à surveiller, il revenait. C'est l'ancien coordonnateur du jeu au sol des 49ers. Fait qu'on se doute qu'il va miser beaucoup sur le jeu au sol, sur un jeu aérien là, contrôlé. Donc, une équipe qui m'intrigue.
J'ai beaucoup aimé faire des blagues, là. Ça commence déjà à me taper ses nerfs, là.
Oh, déjà taper ses nerfs? Hey, Jean-Nic, ça fait combien de mois qu'il est là, là?
Je sais, mais il fait juste des blagues, là. Il pense que c'est drôle, puis quand il va être 2-6, là, je suis plus sûr que ses blagues vont être si drôles que ça, là. Tu sais, ça aussi, c'est.
T'es-tu déjà aussi tanné de sa tête d'enseignant en sixième année?
Ouais, c'est ça en plus, là. C'est vrai qu'il est pas vieux, là, puis il a pas l'air vieux, mais en bref, je comprends que ça. Ça n'a pas d'impact sur les joueurs. Je pense que les joueurs l'aiment, là, puis je pense que sa complicité avec Tua va bien fonctionner.
Les Dolphins, je suis très curieux. C'est une des équipes là, qui a vraiment de la misère à me prononcer. Pour moi, sont ça à ligne. Là. Est-ce qu'on fait les séries, est-ce qu'on les fait pas? Ce qui me fait pencher du côté négatif, du côté obscur de la force, c'est que la conférence américaine est extrêmement relevée. Il y a des gros clubs là-dedans. Sont ça à ligne. Honnêtement, je les vois là. C'est une fiche genre 9-8, 10-7, mais ça va être tellement compétitif qu'il pourrait se retrouver du mauvais côté. Là, mais je serais pas surpris, vu que tu me lances sur les Pats, qui devance les Pats dans cette division-là.
Puis est-ce que ça a amélioré les Pats puis les Jets?
Les Jets, pour moi, c'est une équipe jeune qui a pas vraiment le choix de s'améliorer. Les Pats, c'est une autre situation. Bon, écoute, Mac Jones, en théorie, va s'améliorer parce qu'il y a une année dans le corps, parce que, écoute, il y a une familiarité avec ses receveurs. Mais d'un autre côté, c'est pas encore la mer à boire côté arme offensive à ses côtés. Ils ont éprouvé toutes sortes d'ennuis durant le camp d'entraînement, lors des pratiques. Tu sais, quand tu suivais les pratiques et les matchs préparatoires des Pats, ça revenait constamment les cafouillages offensifs. Là, ben écoute, on sait jamais, là, tu sais, c'est sûr que dans les matchs préparatoires, t'as tendance à amener un plan de match un peu vanille, comme on dit, là, où tu montres pas grand-chose à tes adversaires, mais quand même, il y a des inquiétudes au niveau de l'attaque, puis défensivement, on a perdu des gros morceaux, là. Le demi de coin, J.C. Jackson, écoute, là, c'est un gars qui réussit de gros jeux au moment opportun. Il a tout le corps des secondeurs qui est à peu près remodelé au complet, là. Les Patriots, je serais pas surpris qu'ils fassent un petit pas de côté cette année, là, par rapport à l'an passé.
On se dirige vers l'Ouest, si tu veux bien, parce que quand on parle de division relevée, là.
Ça, c'est la division de la mort, l'Ouest. Là.
Dire, là, Broncos, Chiefs, Raiders, même, on peut bien dire ce qu'on veut sur les Raiders, mais ils sont compétitifs depuis plusieurs années. Puis Derek Carr est toujours top 10 d'un quart arrière, quoi qu'on en dise.
Écoute, les Raiders, ils ont fait les séries l'an passé, les Raiders. On a tendance à l'oublier dans une saison marquée par catastrophes. Tu sais, John Gruden, Henry Ruggs, il est arrivé toutes sortes de choses avec les Raiders qu'on peut pas imaginer. Puis ils se sont tenus dans la tempête, il faut leur donner, là. Là, tu arrives avec un nouveau pilote, encore une fois, Josh McDaniels, l'ancien coordonnateur offensif des Pats des 45 dernières années environ.
Et l'ancien entraîneur des Broncos.
Oui, ça va amener une belle rivalité. Ils ont été chercher Davante Adams, le receveur qui faisait les délices d'Aaron Rodgers. C'est quand même pas rien non plus. Tu perds ça avec Hunter Renfrow et Darren Waller. Tu sais, je pense que les Raiders ont tout pour faire du bruit offensivement. Il y a quelque chose qui me fait très peur. La ligne à l'attaque. C'est très, 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 très douteux. Honnêtement, là, je crains pour la santé de Derek Carr. Mais tu sais, c'est une division qui va être très compliquée parce que c'est pas les seuls à s'être améliorés. Je sais pas par où tu veux commencer, mais ça brasse partout.
Ouais, ben allons-y avec les Chiefs. Je pense que c'est l'équipe que malgré tout qui part favorite dans cette division-là.
Mm-hmm. Ben oui, c'est l'équipe qui part favorite parce que c'est les Chiefs, parce qu'ils ont l'habitude de dominer outrageusement leur division dans les dernières années. Et là, ils perdent à peu près pas de matchs de division. Ça fait leur force. Mais Tyreek Hill est parti. Tu sais, je me demande à quel point ça va affecter le synchronisme là, de l'attaque. On dit beaucoup de bien au camp d'entraînement du nouveau venu Juju Smith-Schuster. Rappelle-toi, monsieur TikTok avec les Steelers. Il avait fait de bonnes choses avec Antonio Brown à ses côtés. Il s'est un peu éclipsé là, depuis le départ de Brown. Donc ça, j'ai bien hâte de voir. Parce qu'à Kansas City, s'il y a une place où tu peux retrouver tes lettres de noblesse, je pense que c'est l'endroit idéal. Il y a eu des changements, mais c'est pas les changements là, les plus majeurs du côté des Chiefs. Tu sais, il y a surtout des joueurs qu'on a perdus en fait. Le Tyreek Hill, Tyrann Mathieu, l'excellent maraudeur qui est rendu avec les Saints. On a perdu aussi un demi de coin partant en Charvarius Ward. Donc, il y a plus de questions, je te dirais, que les années passées. J'ai confiance en Andy Reid là pour s'ajuster là. Mais
qui devrait craindre dans cette division-là?
Ah, pour moi, c'est les Chargers. Honnêtement, les Chargers étaient tout près d'exploser l'an passé. Certains diront que leur entraîneur, Brandon Staley, a été trop audacieux avec des paris risqués sur les quatrièmes essais à répétition. Mais ça leur a amené du succès aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas juste voir la défaite contre les Raiders en fin de saison. Puis, il y avait les grosses questions, eux autres. On n'était pas capable de freiner le jeu au sol. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher deux gros plaqueurs dans la saison morte. On est allé chercher aussi Khalil Mack, le vétéran chasseur de corps arrière. Ça peut être toute une addition. Donc, J.C. Jackson aussi, le demi de coin dont je parlais avec les Patriots. Je pense que défensivement, ça va faire toute la différence dans une division qui est marquée par d'excellents corps arrière. Les Chargers, c'est l'équipe pour moi, qui est la plus améliorée.
Puis, tu oublies Russell Wilson. Il me semble que si une équipe s'ajoute Russell Wilson, tu fais tout pour l'améliorer.
Ben Russell Wilson, c'est sûr qu'il y a de grosses chances qu'il propulse les Broncos en série. Tu sais, encore là, ça va être difficile de décider qui va être en série entre les Broncos, les Dolphins, les Ravens. Il y a plusieurs clubs qui peuvent se battre. Mais effectivement, Eckhart, quand tu regardes ça, depuis que Peyton Manning est parti, là, les Broncos, là, les corps arrière qui ont défilé, c'est un peu dégueulasse. Tu sais, Brock Osweiler, Trevor Siemian, Paxton Lynch, Joe Flacco, Case Keenum, je dois en oublier, Teddy Bridgewater l'an passé, là. Ça a vraiment pas été facile. Puis malgré tout, l'équipe a été quand même compétitive. Mais là, t'amènes un Wilson, c'est sûr qu'il a le mandat de les élever à un autre niveau complètement. Là. C'est une équipe qui a de bonnes bases en défensive aussi. Un excellent champ arrière avec Javonte Williams puis Melvin Gordon. De bons receveurs. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe-là. On a comblé la principale lacune qui était au poste de corps arrière. Donc, clairement, là, je te disais que les Chargers étaient les plus améliorés, mais les Broncos sont vraiment pas loin derrière, à mon avis.
On s'en va dans le nord de l'AFC, si tu veux bien, parce que on en a parlé tantôt. Je pense que les Steelers ont quand même eu un bon camp d'entraînement, mais ils sont eux aussi dans une division où ils risquent de pas se donner beaucoup de matchs.
Ouais, c'est toujours féroce, la division Nord. T'sais, c'est souvent parmi les meilleurs matchs qu'on voit, les plus physiques, en tout cas dans la NFL. T'sais, quand tu as des clubs comme les Steelers, les Ravens, les Browns qui pratiquent du football très physique. Puis maintenant, les Bengals qui sont peut-être plus en finesse un peu, mais ils s'en laissent pas imposer. Là. T'sais, c'est fini le temps où c'était une joke. Puis je pense d'ailleurs que les Bengals, c'est pas un feu de paille. La seule chose que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'ils vont débarquer de leur balade en tapis volant? Là? Parce que les finalistes défaits au Super Bowl, souvent, ouais, c'est très difficile. T'sais. Puis là, ça a l'air d'une phrase lancée comme ça, mais check, j'ai la stat devant moi. Lors des 27 dernières années, il y a une seule équipe vaincue au Super Bowl qui est retournée au match ultime la saison suivante. Ça, c'est les Pats il y a 4 ans. Rappelle-toi, ils avaient perdu contre les Eagles puis ils étaient allés battre les Rams l'année d'après. C'est pas facile retourner là où on a été au sommet. Là. C'est vraiment pas évident, mais je pense Eagles, qu'avec...
une équipe, là, on oublie ça, là, ouais, mais ils n'ont pas tant de profondeur. Là,
non.
Si ils perdent 2-3 par temps à l'attaque, là, en arrière, il n'y a plus grand-chose. Ben,
t'as pas tort, mais je trouve qu'ils ont fait les bons gestes. Puis les Bengals, c'est une organisation par le passé qui a été reconnue là pour être très cheap. Il y a pas d'autre mot là. Tu sais, ils dépensent pas sur un centre d'entraînement, dépensent pas sur les joueurs autonomes, dépensent pas sur des coachs. Là, ça semble derrière eux cette réputation là. La preuve, c'est que c'était quoi la grosse lacune des Bengals là. Écoute, tu l'as vu comment Joe Burrow s'est fait massacrer depuis 2 ans.
Ouais.
On a renforcé de façon admirable la ligne à l'attaque. T'sais, on a signé le garde des Bucs, Alex Kappa, qui était très performant. On a signé un centre, Ted Karras. On a signé le bloqueur des Cowboys, Lyle Collins. T'sais, c'est beaucoup, beaucoup de nouveaux sur la ligne à l'attaque. Il va falloir développer une symbiose. Mais honnêtement, là, tu pouvais pas faire mieux. Le mandat des Bengals était clair. Puis ils l'ont non seulement respecté, mais ils ont fait au-delà des attentes, je pense. Donc, pour moi, cette équipe-là est loin d'être un feu de paille.
Les Ravens, même recette, même résultat?
Ravens, écoute, l'année passée, ils ont été ravagés par les blessures. Là, rappelle-toi, Lamar Jackson qui a raté quelques matchs, 5-6.
Mais au-delà de ça, là, ils menaient toujours là, la statistique de matchs manqués par des partants.
Ouais, c'est ça. Ben, l'hécatombe dans le champ arrière. On était rendu à peu près au 5 ou 6e porteur de ballon. On signait des vétérans finis. Ces joueurs-là reviennent. La défensive qui continue de prendre l'expérience. La question que j'ai, moi, c'est au niveau des receveurs. T'sais, on a laissé aller Marquise Brown.
Hollywood!
Hollywood, de son prénom. Il est très, très explosif. Est-ce qu'on va retrouver cet élément-là? Il y a le jeune Rashad Bateman, un choix de premier tour l'an passé, qui va devoir prendre beaucoup de place. Ça reste toujours à prouver. T'sais, c'est pas parce que tu as été choisi en première ronde que tu vas performer. Mais je serais pas surpris que les Ravens refasse beaucoup de bruit, que la saison passée, qui n'ont pas fait les séries, soit juste une aberration. Là, je serais le moins surpris du monde.
Les Steelers, toujours une bonne défensive, sont pas trop de nouveaux de leur côté en défense. Peut-être à l'attaque, c'est là qu'on va voir s'ils peuvent se... Mais on parle pas de reconstruction chez les Steelers, là, mais c'est l'air à post-Ben.
Ben moi, la grande question côté Steelers, c'est quand est-ce qu'on va voir Kenny Pickett embarquer? T'sais, à quel point Mike Tomlin va être patient avec Trubisky. J'ai des gros doutes.
Moi, je pense qu'il va le protéger, Pickett. Là,
Ben, c'est ça. Ce serait la meilleure chose à faire, probablement. Mais lui, ce qu'il a vu au camp d'entraînement, Mike Tomlin, de Kenny Pickett, c'est un joueur qui répondait à ses attentes. Est-ce qu'il va dire, écoute, moi, je niaise pas avec la POC, puis on fait comme avec Big Ben à l'époque où il était un joueur recru en quoi, ça remonte à 2004, ouais. Puis, on l'embarque tout de suite dans mêlée. J'ai hâte de voir Tomlin, dans le fond, toute sa carrière aura géré un seul corps arrière partant qui était Ben Roethlisberger parce que lui, il est arrivé en 2006. Mmh. Donc, c'est tout nouveau le portrait, c'est difficile à évaluer. Les Steelers, bon, qui ont misé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le jeu au sol l'an passé. T'sais, ils devenaient extrêmement prévisibles avec des passes décochées très rapidement parce que Ben Roethlisberger était immobile à ce stade-ci de sa carrière. Ça risque d'être différent. Je ne sais pas s'ils ont les armes pour rivaliser dans la division. Juste une note sur les Steelers, Jean-Nic. T'sais, c'est une usine à receveurs de passes, là. On le sait, là, ils en ont produit un, puis un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis il semble qu'ils en ont encore un nouveau qui est en train de s'illustrer. George Pickens de Georgia. Lui, il serait sorti en première ronde, c'est sûr, mais il avait été blessé à Georgia. Une importante blessure qui l'avait freiné pas mal. Il semble complètement remis. Il est très, très gros, très physique. Ça risque d'être un receveur qui va s'illustrer assez rapidement.
Bon, et puis on va donner la roche à Najee Harris encore au moins 40 fois par match. C'est ça aussi qui sera peut-être pas une surprise. À suivre. On va y aller rapidement avec les Browns, là, qui commencent avec Jacoby Brissett, là.
Ah, l'air Jacoby Brissett.
Hey boy.
Non, ce sera pas évident, là, c'est clair. Deshaun Watson suspendu 11 matchs, on en parlait plus tôt. Puis tous les espoirs des Browns reposent carrément sur lui, là, parce que oui, ils ont une bonne défense, je leur donne. Là, honnêtement, ils peuvent être compétitifs juste par leur défense. Ils ont un très bon champ arrière, là. Tu sais, Nick Chubb puis Kareem Hunt, c'est quelque chose comme tandem. Mais de plus en plus, les équipes vont se concentrer à stopper la course avec un Jacoby Brissett comme corps arrière qui est clairement pas une menace. Il peut aller chercher un match ou deux, là. Mais pendant 11 matchs, je pense que ça va être long. L'attaque va être un peu pénible à voir. Puis, on semble déjà penser à 2023. Là. Quand tu dis Watson est suspendu 11 matchs, cette année, il va revenir juste pour dire qu'il retrouve un peu son synchronisme, là, qu'il chasse la rouille. Probablement que les Browns, il faut plus penser à l'an prochain.
On s'en va dans le sud de l'AFC. Et là, bien malin celui qui peut prédire qui sortira de cette division parce que même Tennessee, là, ils sont pas sur une pente montante.
Ben, il y en a beaucoup qui continuent de voir les Titans comme l'équipe assurément championne de division là, dans le Sud. Moi, c'est pas mon cas. Personnellement, je préfère les Colts. Mais pour parler d'abord des Titans, écoute, c'est une autre équipe qui a été affectée par les blessures l'an passé. Là, bon, il y a beaucoup de monde qui reviennent, mais en même temps, on a perdu de gros morceaux. Là. Tu sais, le receveur AJ Brown, c'était une grosse partie de l'attaque aérienne. Déjà que Ryan Tannehill semblait avoir perdu beaucoup de confiance en fin de saison puis en série l'an passé, ça pose de sérieuses questions. Là. Je comprends qu'on a été chercher Robert Woods, mais il se remet d'une grosse blessure au genou. Je suis pas sûr qu'il peut être dominant comme AJ Brown. On a misé sur Treylon Burks au repêchage, un choix de première ronde. Mais encore là, on dit que c'est un joueur qui devrait être à polir, tu sais, ça risque d'être long avant qu'il s'adapte. Ça, on le sait pas. Des fois, il y a des prédictions comme ça qui s'avèrent complètement fausses. Mais il y a quand même des questions. La ligne à l'attaque, clairement pas convaincante, là. On a fait des moves dans les derniers jours pour aller chercher des gars qui sont clairement des réservistes au mieux. Tu sais, c'est un petit peu inquiétant. Puis la grande question, c'est Derrick Henry. Tu sais, il a été blessé une bonne partie de la saison passée. On ne sait pas dans quel état il va être. Ça reste
on dit que quand il joue, il est bon, mais c'est ça. Il va jouer 17 matchs.
Est-ce qu'il va avoir encore le millage d'un jambe dans le corps? T'sais, c'est des questions qu'il faut commencer à se poser à ce stade-là de sa carrière. Donc, je vois les Titans comme une équipe très compétitive qui peut continuer de faire du bruit. Je ne serais pas surpris là, qu'ils finalement connaissent une très bonne saison. Mais je vois quand même les Colts devant eux cette année. Là. Puis là, tu vas me dire que Matt Ryan n'est pas non plus sur une pente ascendante, puis tu as raison. Mais écoute, il était à un cheveu de faire les séries avec Carson Wentz.
Je pense que... On est ailleurs avec Matt Ryan, c'est sûr. Matt Ryan, c'est un vrai corps arrière là, qui est... À comparer à Carson Wentz, surtout où il était dans sa carrière.
Ben, je pense que Matt Ryan est sur une pente descendante. Son bras n'est pas ce qu'il a déjà été. Mais on lui demandera pas nécessairement de sauver le monde à Indy parce que tu as un porteur de ballon en Jonathan Taylor qui va être le point central de l'attaque. Tu as quand même une ligne offensive qui n'est pas dominante comme elle était il y a 2-3 ans, mais qui est solide. Puis tu as une défensive qui est bien équilibrée. Donc, j'ai l'impression qu'il n'aura pas à tout faire comme il devait le faire dans ses dernières années à Atlanta. Tu sais, rappelle-toi, il n'était pas appuyé zéro pin-bar par le jeu au sol. Donc, ça risque de l'aider à peut-être relancer. Je pense pas qu'il va jouer encore 4, 5, 6 ans, là. Mais je serais pas surpris qu'il donne peut-être une ou deux bonnes années au coach.
Deuxième année pour Trevor Lawrence, deuxième coach déjà. Il va retrouver Travis Etienne. Qu'est-ce qu'on pense des Jaguars?
Ils vont faire un pas en avant. Ça peut pas être pire que le bordel atroce qu'a laissé Urban Meyer, là. T'sais, écoute, là, ça peut pas aller plus bas que ça. Puis il y en a qui n'ont pas aimé la sélection de Doug Peterson comme entraîneur-chef. Moi, personnellement, j'ai apprécié parce que je trouve que ça prend quelqu'un pour mettre de l'ordre un peu dans cette situation complètement anarchique de l'an passé, là. Peterson a de l'expérience, il a un Super Bowl derrière la cravate, il a dirigé aussi plusieurs jeunes corps arrière, donc pour moi, c'était un choix qui était logique au stade où en sont les Jaguars. On verra plus tard, mais à ce stade-ci, moi, j'ai rien contre cette embauche-là. Ce que j'ai pas aimé du côté des Jaguars, c'est qu'on a payé une fortune pour le receveur Christian Kirk, qui, à mon sens, est peut-être un bon deuxième. Je suis pas sûr qu'il peut charrier l'attaque comme receveur numéro un. Ça reste à voir pour moi. Si c'est ça qu'on donne de mieux à Trevor Lawrence, là, j'ai des doutes. Je pense qu'ils peuvent s'améliorer, les Jaguars, mais je vois pas une énorme amélioration, là, quelque chose comme 4, 5, 6 victoires dans ce range-là, à peu près, là.
Est-ce que tu es d'accord avec Denis Casavant qui nous parlait de Davis Mills comme un carrière qui pourrait surprendre jusqu'à peut-être, en tout cas, c'est pas ce qu'il a dit, Denis, mais il avait l'air de dire que les Texans pouvaient peut-être frapper à la porte des séries.
Écoute, Davis Mills, l'année passée, vraiment, il a bien fait. En 11 départs, 16 touchés, 10 interceptions. C'était une recrue, là, tu sais, il a été choisi, si je me trompe pas, en troisième ronde. On n'attendait pas nécessairement des miracles de lui.
Je me souviens, en plus, quand il l'avait repêché, là, dans le War Room, ouais, des Texans, là, ça célébrait, là, c'était comme s'il avait pris, là, le nouveau corps arrière vedette, là.
Ouais, mais Davis Mills, écoute, va falloir qu'il soit extraordinaire, là, j'en ai. T'sais, pas seulement bon.
Ouais.
Parce que t'as une équipe extrêmement jeune autour de lui. Beaucoup, beaucoup de joueurs importés à gauche, à droite. T'sais, c'est pas encore construit solidement comme alignement, là. Je suis d'accord qu'ils peuvent surprendre, gagner quelques matchs, mais je les vois pas nécessairement frapper à la porte des séries. Puis, qu'est-ce qu'ils font l'année prochaine, là? Bon, les Texans, mettons qu'ils connaissent une saison encore pitoyable. Si Davis Mills a été bon, correct, là, t'sais, un genre de, je sais pas, 20 touchés, quelque chose comme ça, 25 touchés, ils vont dire, ouais, mais là, on finit dans les derniers, on a une possibilité de repêcher Bryce Young ou CJ Stroud au printemps. Davis Mills, ça va être merci, ciao, bye, là, tu sais. Ça fait penser un peu à la situation que Gardner Minshew a vécue à Jacksonville l'an passé, pas l'an passé, mais il y a 2 ans. C'était insoutenable. Il fallait qu'il transporte l'équipe alors qu'il n'y avait pas d'équipe autour de lui. Donc, Mills risque d'être placé un peu dans ces bottines-là. J'aime pas trop ça pour le jeune. Si, par contre, là, il réussit à faire des miracles puis à faire gagner quelques matchs de plus qu'on pense à cette équipe-là, ben, ça va permettre aux Texans peut-être de lui donner une autre année. C'est là où ça va jouer dans son cas, mais je les vois pas comme une équipe compétitive.
On fait une pause, Stéphane, si tu le veux bien. Après la pause, on va revenir avec la Nationale et la division Cowboys, Giants, Eagles et Commanders. Qui va sortir de cette division pitoyable? On en parle après la pause.